Voilà, on va prendre un sujet très important pour la vie de chaque chrétien. Et ça, c'est comment vaincre un zombie. D'accord? Vous allez peut-être vous poser la question, bah, zombie, j'en vois pas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a beaucoup de films qui parlent de zombies. Paul, est-ce que tu peux baisser les lumières un peu? Parce que ça m'aveugle un peu. Ou sinon je bouge. Tout ce que je vois maintenant, c'est les petits points verts. C'est mieux. Merci. Donc il y a vraiment beaucoup de films en ce moment qui parlent de zombies. Je ne vous les conseille pas. Mais c'est étrange parce que je pense que ça reflète une tendance un peu parmi nous. Alors je ne veux pas dire que voilà, on est entouré de zombies ce matin. Mais un zombie, c'est un cadavre qui fait semblant de vivre. Okay? Et je constate que nous avons parfois une façon d'être et une façon d'agir qui laisse vivre les choses qui sont mortes. Et s'il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, qui nous permet d'aller vers la maturité en Christ, c'est savoir vaincre un zombie. Savoir vérifier que ce qui est mort reste mort et qui ne se promène pas dans nos vies. Et donc, c'est pour cette raison, on va passer un peu de temps aujourd'hui en Romains 6, versets 1 à 14. Alors, il faut savoir que dans les chapitres précédents, Paul, chapitre 1 à 5, Paul parle beaucoup du pardon. Il parle de la justification, il explique comment on est justifié, on est mis en règle avec Dieu. Mais ici, dans le sixième chapitre, il commence à s'intéresser à la suite de notre aventure avec Dieu. Et il se pose une question. Et là, on a notre question. Alors, que dire maintenant? Donc voilà, on est pardonné, on est justifié, voilà, on n'était pas chrétien, maintenant on est chrétien. Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Il a beaucoup parlé de la grâce et combien c'est bien d'être sous la grâce. Mais que dire maintenant? Et il nous devance un peu en posant cette question, parce que j'avoue que les réponses soient dites ou pas, que j'observe le plus souvent et que dans les temps moi aussi j'ai donné comme réponse, il y a deux réponses qui sont assez courantes. Première réponse, persisterons-nous dans le péché? Ben, pas vraiment. Mais on est sous la grâce maintenant. Donc, ce n'est pas grave si ça continue un peu par-ci, par-là, parce qu'en tout cas, je peux demander pardon. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner à cette question-là. Deuxième réponse que j'observe assez souvent aussi, c'est la réponse, ben non. Je suis tellement reconnaissante du pardon que j'ai reçu. Je ne veux plus pécher, mais j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Je ne sais pas comment faire pour arrêter de pécher. Et ces deux réponses-là, avec chaque réponse, il y a un problème. Il y a un problème. Et Paul, il veut nous montrer la bonne réponse à cette question-là. Mais c'est super important de voir ce qu'il ne dit pas. Parce que souvent, quand on pense à Paul, on pense à quelqu'un qui il nous balance des choses. Il faut ceci, il faut cela, il faut... Voilà. Mais il ne nous donne pas une liste de, voilà, 5 choses à éviter, 5 lois à observer, 5 points pour nous motiver à vouloir être saints. Il ne fait pas ça. Ce qu'il fait, il nous montre qu'avec notre nouvelle identité, en Christ, il nous montre que nous n'avons ni l'envie de pécher, ni l'obligation de pécher. Donc, deux choses, ni l'envie, ni l'obligation de pécher. Et donc, nous allons regarder ce qu'il dit à ce sujet pour que ça devienne vraiment plus clair pour nous, parce que c'est très important. Donc, revenons aux zombies. Okay? Nous avons une ancienne identité. Si on est chrétien, nous avons une ancienne identité dans laquelle nous sommes nés. Et la Bible appelle cette identité le vieil homme. Le vieil homme ou l'homme ou la femme qu'on était autrefois. Donc voilà, c'est quelque chose du passé. Ensuite, il y a la nouvelle identité dans laquelle nous sommes nés en Christ, quand on rencontre Christ pour la première fois. Et à cause de cette nouvelle identité en Christ, il y a deux vérités en ce qui concerne le péché. Il faut qu'on soit au courant. Okay? Première chose, en Christ, nous sommes morts pour le péché. Et deuxième chose, en Christ, nous sommes libérés de la puissance du péché. Alors, ce ne sont pas des phrases nouvelles. J'imagine que vous avez entendu ces phrases plusieurs fois. Mais quand je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire être mort pour le péché? C'est assez rare de trouver quelqu'un qui peut vraiment me donner quelque chose de concret, qui peut me dire quelle est l'importance de cette phrase-là. Donc, c'est très beau. Et on va voir ce que ça veut dire et concrètement ce que ça veut dire pour nos vies. Donc, regardons les versets 1 et 2 ensemble. Donc, on a les versets 1 et 2, c'est la bonne réponse que Paul nous donne. Persisterons-nous dans le péché? Loin de là. Paul ne dit pas, je pense que ce n'est pas une très bonne idée parce que ça va vous faire un peu de mal. Il dit, mais attendez, vous n'avez pas compris. Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Parce qu'en fait, ce sont deux choses qui n'existent pas dans le même monde. Il n'est même pas logique de poser la question, en fait. Il n'est pas logique de poser la question. Si je peux saisir le fait que je suis morte pour le péché, alors je ne pose pas cette première question-là, je pose une deuxième question. Je dis, mais comment est-ce que je peux continuer? Comment est-ce que je peux continuer? Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire être mort pour le péché, parce que notre maturité spirituelle dépend de notre compréhension de ce que ça veut dire. C'est très difficile d'avancer, d'être libéré de la puissance du péché, si on ne comprend pas comment on est mort pour le péché. Donc, Paul, il nous donne trois pistes, si vous voulez, pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, on va se poser trois questions. Qui est mort pour le péché? Comment sommes-nous morts pour le péché? Et qu'est-ce que cela signifie? Et la troisième, c'est bien sûr la partie la plus importante. L'autre, c'est le moyen. Mais le troisième, c'est quel est l'impact sur ma vie aujourd'hui? Donc, on va commencer avec le qui et le comment, parce que ça, c'est très clairement dit dans le prochain slide. Donc, on est en Romains 6, alors, et là, versets 3 à 5. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Alors, ça, c'est un passage, il faut lire au moins quatre fois pour bien se retrouver dedans. Donc, on va déballer ça un peu. Mais finalement, c'est assez simple. Toute personne qui s'est donnée à Jésus, qui ici s'est donnée à Jésus? Donc, on est assez nombreux. Et peu importe si tu es chrétien depuis 60 ans ou si tu es chrétien depuis 2 minutes, c'est pareil. C'est pareil. Paul parle du baptême, c'est le signe extérieur et la confirmation publique de ce qui se passe quand quelqu'un se donne à Dieu. D'accord? Donc, quand il parle de ceux qui sont baptisés en Christ, il est en train de parler de ceux qui se sont donnés à Jésus et qui, dans le cours des choses normales, voilà, vous passez par le baptême. Et ça, c'est la confirmation publique de cela. Mais à partir de la première seconde où tu te donnes à Dieu, c'est vrai pour toi que tu es mort pour le péché. D'accord? ce n'est pas une compétence que tu apprends. Je n'apprends pas à être mort pour le péché. C'est plus un état civil, si je peux le dire comme ça. Quand tu deviens chrétien, ton ancienne identité, le vieil homme, la vieille femme, la personne que tu étais avant, a un certificat de décès. D'accord? C'est quelque chose qui est fait, c'est un statut, c'est un état. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu apprends. Le problème, c'est que le vieil homme, la vieille femme, essaie de faire le zombie parfois. Et ne veut pas rester bien enterré. Alors, le comment. Le parallèle entre ce que nous voyons lors d'un baptême, ça nous aide à visualiser ce qui s'est passé quand quelqu'un se donne à Dieu. Donc, enseveli avec Jésus, ressuscité avec Jésus, et cette mort pour le péché vient par notre union avec Jésus. Quand tu te donnes à Jésus, quand tu le reconnais comme étant ton sauveur et ton Seigneur, tu es uni à lui et tu es tellement uni à lui que le vendredi saint, tu es mort avec lui. Et le dimanche de Pâques, tu es ressuscité avec lui. C'est ça que ce passage est en train de dire. Tu es tellement uni avec Dieu que ce qu'il a vécu, toi, tu as vécu. Ça va? Vous me suivez? Moi, j'étais assez choquée quand j'ai lu ça la première fois, parce que nous avons tous lu ce qui s'est passé le vendredi saint. Et on a tous lu ce qui s'est passé le dimanche de Pâques. Et quand je pense que moi, j'étais là, quelque part. J'étais là parce que j'étais crucifiée avec lui. On a déjà entendu ce matin que l'ancien, c'était en Galates 5, que l'ancien homme fut crucifié avec Christ. C'est ça qu'on est en train de reprendre. Excuse-moi. Et donc, ça c'est très beau, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Voilà, je suis morte, je suis ressuscitée, ça change quoi? Alors, si tu peux passer au suivant. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis mort pour le péché, donc je ne peux plus pécher? C'est vrai ou pas? Faux! Oui, alors, non. C'est pas qu'on ne peut pas pécher. Il faut faire très attention de ne pas partir dans les choses que la Bible ne dit pas. D'accord? Je ne sais pas pour vous, moi j'ai remarqué dans ma vie que je suis quand même capable de pécher. Et j'imagine que c'est vrai pour vous. Donc voilà, mort pour le péché, ça ne veut pas dire que tu n'es plus capable de pécher. Ça veut dire simplement qu'il est devenu impensable, parce que ça ne fait plus partie de mon monde. D'accord? Ce n'est pas même quelque chose que je vais considérer. Alors, est-ce que ça veut dire deuxième chose? Si je fais un grand effort de ne plus pécher, je deviendrai mort pour le péché. Bah, non plus. Non plus. Parce que là, on est en train de parler de nos efforts et de, voilà, je vais essayer, un jour, je serai mort pour le péché. C'est pas ça non plus. Parce que comme Paul explique dans le passage qu'on a lu au début, pour les linguistes parmi nous, il utilise un temps dans le grec qui s'appelle le temps aoriste, qu'on utilise pour quelque chose qui s'est fait dans le passé, une fois, c'est fait, c'est fini, point. D'accord? On n'est pas dans un présent continu je deviens mort. Non, tu es mort pour le péché. C'est fait, c'est accompli. Quand Jésus a dit sur la croix, voilà, c'est accompli. C'est une des choses comprises dans cette idée de ce qui est accompli. On est mort pour le péché. Donc, venons à l'essentiel, alors. Ça signifie quoi? Parce que là, c'est très beau jusqu'à là, c'est très théologique, c'est très... Mais ça veut dire quoi? Alors, dans notre ancienne identité, nous étions maîtrisés par le péché. Donc, il y avait un contrat qui existait, signé entre Adam et le péché qui dit, voilà, péché, tu as l'autorité. À cause de ce qui se passait tout au début, il y avait ce genre de contrat qui existait. Et ça veut dire que le péché avait le droit sur notre vie. Ce n'est pas très beau, d'accord? Mais c'est vrai. Et donc, l'homme que nous étions autrefois péchait sans trop avoir l'espoir de pouvoir arrêter, de pouvoir changer ça, parce qu'il y avait un contrat qui existait. Mais avec notre nouvelle identité, avec la mort de Jésus, et donc de notre mort avec lui, ce contrat s'est brisé. D'accord? C'est brisé. Et la vérité qui nous libère, c'est ceci. Aux yeux du règne du péché, nous n'existons plus. D'accord? Aux yeux du péché et de son règne, nous n'existons plus. Il ne voit pas nous comme quelqu'un sur qui il a la domination, la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer. D'accord? Mais il sait qu'il n'a pas de l'autorité dans nos vies. Donc, nous sommes libérés de cette autorité. Mais le problème, c'est que peut-être ça ne colle pas avec ton vécu. Tu n'as pas vraiment l'impression d'être libéré de tes mauvaises habitudes, par exemple, ou d'un comportement qui... Tu sais que ce n'est pas bien, mais c'est tellement difficile. Peut-être c'est tes réactions aux autres, parfois. Pour moi, ça peut poser problème, parfois. C'est peut-être... La colère qui monte trop facilement, c'est peut-être le jugement envers les autres, c'est peut-être la violence. Je ne sais pas si on a des gens qui sont violents là, mais c'est aussi une manifestation d'un comportement qui appartient au péché. La facilité à mentir quand ça nous arrange. D'accord? Toutes ces choses-là, ça fait partie de ce cycle de comportement que le péché, il veut bien maintenir son emprise sur nous, mais nous sommes morts à ça. Mais le problème, c'est si nous ne nous sentons pas libres, on peut dire, tout ce qu'on a lu tout à l'heure, de Dieu, oui, je suis mort pour le péché, peut-être le fait d'être libéré de la puissance du péché, c'est autre chose, parce que je ne le vois pas dans ma vie. Donc, ça veut dire que ce que la Bible dit, ça doit être autre chose, parce que je ne le vis pas. D'accord? Et donc, on a la vérité, ça c'est la vérité, parce que c'est la Bible qui nous dit que nous sommes libérés de la puissance du péché. Et puis, il y a un autre vécu. Le péché, c'est difficile de m'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux choses qui semblent tellement écartées parfois? On a la vérité, mon vécu, la vérité, mon vécu. Alors, à qui est-ce qu'on va faire plus de confiance? À Dieu ou à nous? Ah, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Mais c'est très facile à dire. Oui, oui, Dieu, je te fais confiance. Je sais que c'est la vérité. Et puis, voilà, quelque chose se passe. Et, oh, c'est mon vécu, c'est terrible, j'ai du mal. Donc, Paul, il veut nous montrer quelque chose qui est super important. Et je vais vous donner un exemple pour nous aider à visualiser ce que ça veut dire. Pendant la guerre de sécession, aux États-Unis, à la fin de cette guerre, c'était en 1860 quelque chose, 65 je crois, Lincoln, il avait déclaré l'émancipation des esclaves. D'accord? Vous avez tous peut-être fait ça dans l'histoire à l'école. Et donc, à ce moment-là, avec cette déclaration de l'émancipation, il n'y avait plus d'esclaves. Chaque esclave était libre. D'accord? Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas quelqu'un qui a fait un tweet en disant « Wouhou, les esclaves sont libres ». Donc, parce que la communication était beaucoup plus lente, ça prenait du temps pour les nouvelles à se faire entendre, à se faire connaître. Et donc, ça voulait dire qu'un esclave qui travaille pour un maître, même quelques mois après, il pouvait très bien ne pas savoir qu'il est libre. Alors, aux yeux de la loi, il est libre. Il n'est pas esclave. Mais parce qu'il n'a pas connu la vérité, il continue à agir comme esclave. Et le maître continue à être le maître, même si, aux yeux de la loi, il n'est plus la maître. Et c'est un peu la même chose qu'on voit avec cette histoire de péché. Qu'on le vive ou pas, on est libre de la puissance du péché. On est libre. Ça, c'est un fait. D'accord? Mais on a besoin de s'approprier la vérité pour nous. Parce que c'est ça qui va changer les choses. Et Paul, il nous donne pas une liste de 5 choses à faire, comme j'ai déjà dit. Il nous dit pas, voilà, fais ça, 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 ça. Ne fais pas ça, 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 ça. Il dit, bon, il y a trois clés pour comprendre cette libération qu'on a. Est-ce qu'on peut passer? Il dit qu'il y a une vérité qu'il faut connaître. Ça, c'est la première chose. Alors, quelle est cette vérité? On voit, c'est dans le verset 6, bah, 6 et 7. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. D'accord? Vous avez bien vu ça? Le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste et il n'a plus à répondre au péché, du péché. Il n'a plus à répondre du péché. D'accord? Ça, c'est la vérité qu'il faut prendre pour nous. Moi, je n'ai plus à répondre au maître péché. Il n'a rien à voir dans ma vie. D'accord? Alors, le péché existe toujours. On ne dit pas que ça n'existe pas. Mais si nous sommes unis à Jésus, ça veut dire que la vieille identité n'existe plus, elle est morte, et notre nouvelle identité n'est pas esclave du péché. Et donc, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que tu sais, au fond de toi, que tu es libéré de la puissance du péché? Est-ce que tu sais? Parce que ça, c'est la première étape pour avancer dans notre maturité de la vie spirituelle. Est-ce que tu sais? Pose-toi la question. Est-ce que tu sais, au fond de toi, que le péché n'a aucune puissance? D'accord? Bah, je ne vous demande pas de lever la main, mais ça, c'est super important de se poser la question. Parce que ça change la suite de ce qui se passe. OK? Nous ne sommes pas en train de parler d'une réparation de quelque chose un peu abîmé ou un truc cassé ou voilà, on polie un tout petit peu et puis c'est tout beau. On parle de la mort et d'une résurrection. Donc, ce n'est pas juste que, ouais, c'était un peu moche avant ta vie, mais voilà, on a brillé un peu, on a craché, on a... et voilà, ça brille un tout petit peu plus. Ce n'est pas un vieux truc qui a été embelli. Le vieux truc, la vieille identité, est morte. Il y a une nouvelle identité. Et nous avons un nouveau départ. Et il y a les gens parmi nous, je sais, qui ont des passés. Et il faut savoir que ce passé, c'est mort, parce que ça pèse toujours sur vous. Mais il faut savoir que cette vieille identité n'existe plus. Ce n'est pas que tu as été changé un tout petit peu, d'accord? Tu as été renouvelé, d'accord? Donc, tout ce qui pourrait faire honte dans votre vie d'avant, c'est fini, c'est plus toi. La personne que je vois aujourd'hui, ce n'est pas cette personne, d'accord? Donc, il faut qu'on puisse saisir ça pour nous, parce qu'on a tous des choses dans nos passés qui... Voilà, on peut en avoir honte, je pense. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Donc voilà, ça c'est la première chose. Tu es morte. Tu es morte à ces choses-là. Et nous avons une nouvelle vie en Christ. Alors, le prochain verset que je veux vous montrer, 2 Corinthiens 5, 14, 17. Nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Ce seul homme, c'est qui? C'est Jésus. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Est-ce que vous croyez que ce qui est ancien a disparu? Oui? Et voici, ce qui est nouveau est... déjà là. C'est déjà là. Ce n'est pas un effort d'avoir la nouvelle créature, d'être la nouvelle créature. C'est fait comme ça. D'accord? Nouvelle identité, nouvelle créature. Et ça, c'est la vérité essentielle que Paul, il veut qu'on comprenne, qu'on saisisse. Parce que c'est ça, ça c'est notre point de départ pour vaincre le zombie. D'accord? Le péché n'est ni son maître, le maître de Jésus. Et si ce n'est pas le maître de Jésus, ça veut dire que le péché n'est pas notre maître non plus. Donc ça, c'est la première chose, une vérité qu'il faut connaître. Ensuite, il y a l'attitude qu'il faut adopter. D'accord? Et ça, on voit dans la suite de Romains. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Il faut arrêter de penser que le vieil homme vit toujours. Ça, c'est important. Ça, c'est le zombie qui se lève la tête, mais il n'a aucun droit d'exister. Aucun droit. Alors, comment le vaincre? C'est très simple. Nous disons, OK, je prends cette vérité comme étant vraie pour moi et j'agis en conséquence. C'est ça que ça veut dire. Quand c'est « considérez-vous », en fait, c'est la réflexion, mais c'est une action. Ça veut dire que ce que je connais, maintenant, je prends pour moi. OK? Ce n'est pas simplement quelque chose qui reste intellectuel. Oui, je sais que je suis mort pour le péché. Et ça ne change absolument rien dans ta vie. D'accord? Considérez-vous, ça veut dire, cette vérité, je prends cette vérité, c'est pour moi. Et maintenant, ça veut dire que les choses peuvent changer. OK? Revenons à cette image de la guerre de sécession et les esclaves. L'esclave qui ne sait pas qu'il est libre, il continue à galérer pour l'ancien maître, il va dans les champs, tout ce qu'il devait faire avant, il continue. Mais le Saint-Esprit nous dit de mettre en pratique, le savoir. Ce qu'on a su, il faut qu'on pratique. Et donc, le savoir devient le savoir-faire. Alors, pour cet esclave-là, le savoir-faire, c'est quoi? Ça veut dire que, à la prochaine visite de l'ancien maître, qui dit, fais ceci, fais cela, voilà, l'esclave dit quoi? Non, je ne veux pas. Donc, c'est assez clair. Il sait, il a su qu'il est libre, et maintenant, il agit en conséquence. Et il dit, non. Non, je ne veux pas aller passer 15 heures dans les champs en train de faire ci, parce qu'en fait, tu n'es plus mon maître. Tu n'es plus mon maître. Et donc, voilà. Je dis non. Et c'est pareil pour nous avec le péché. Parce que le péché, il va bien... Toc, toc, toc. Fais ceci. Je ne suis pas bien, mais ce n'est pas grave. Dis cela. Cette personne qui te frustre, allez, une petite parole cassante, ça va faire l'affaire. Okay? Un peu de paresse. Non, tu n'as pas besoin de lever le doigt pour faire ça. Non, tu restes le centre de ton monde. D'accord? Le péché dit ça. Et nous, en tant que nouvelle créature, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Non, je refuse. Je refuse. Et on peut même être assez impoli, parce que parfois, le péché insiste. Et dans ce cas-là, on dit dégage. Okay? C'est quelque chose qu'on a le droit de dire au péché. C'est non, je ne veux pas, je ne veux plus. Et il faut savoir que l'ennemi, par le biais du péché, ne peut pas nous obliger de faire quoi que ce soit. J'ai entendu parfois les chrétiens qui disent des choses comme « Oh, c'est l'ennemi qui m'a fait réagir de cette façon-là. C'est l'ennemi qui m'a poussé à faire ceci, cela. » Alors, je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. L'ennemi ne peut pas t'obliger à faire quoi que ce soit. D'accord? Et il faut qu'on comprenne que ça, c'est le cas. L'ennemi ne peut pas nous obliger de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et je pense que le problème, c'est que parfois, on se laisse entraîner dans des choses parce qu'on n'a pas pris position. Et on n'a pas dit, non, le péché n'est plus mon maître. Je n'accepte pas. Je refuse. Okay? Et il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas accorder à l'ennemi trop de place. Ni dans nos pensées, ni dans là où on accorde la responsabilité de notre vie. Il faut qu'on prenne la responsabilité face au péché. Ce qu'on a entendu ce matin, encore une fois, dans ce passage de Galates, c'est qu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et justement, c'est pour faire face à ce genre de situation. Et on a entendu en Galates que l'ancien homme, livré à ses propres désirs, ses propres, les vieux trucs, il est crucifié. Et à sa place vient plein de choses, la joie, la paix, mais aussi, à la fin de la liste là, maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est la capacité de dire non. D'accord? Donc, j'aimerais vous donner une image maintenant. Qu'est-ce que vous voyez? À votre avis, ça c'est quoi? C'est une frontière. D'accord? C'est une frontière. Donc, imaginons une frontière entre deux royaumes. Entre deux royaumes. C'est très bien protégé. Vous voyez, il y a double grillage, il y a le barbelé au milieu. C'est très clair qu'il y a deux endroits différents. D'accord? Donc, d'un côté, on a le royaume des ténèbres. De l'autre côté, il y a le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Quand tu es devenu chrétien, Dieu t'a pris de ton pays misérable du côté des ténèbres. Il t'a pris comme ça. Il a fait, ah non, tu n'es plus là, tu es là. Tu as passé l'autre côté de la frontière. Et tu n'as plus la même citoyenneté, tu n'as plus la même nationalité. Tu n'es plus un ténébreux, maintenant tu es un lumière-roi. Voilà. OK? Donc tu n'as plus la même nationalité, tu as changé de citoyenneté. Tu n'existes plus pour l'autre royaume en termes de ce que vous devez aux autorités. Vous n'avez pas d'impôts à payer, vous n'avez pas de service militaire à faire, vous n'avez. Voilà, rien à voir, d'accord? Mais le problème, c'est que le péché vient près du grillage. Parfois, il te voit de l'autre côté. Et le péché vient, il fait « Oui, Sandy !» Ou quelqu'un d'autre, voilà, je me prends un exemple, parce que voilà, j'ai vécu la chose. Donc il vient, il dit « Oh, fais ceci !»« Fais cela !»« Dis ce truc méchant !» Ça, c'est une jolie rumeur que tu peux démarrer. On va voir combien de temps ça prend pour passer dans toute l'église. Tu ne vas pas aider pour cette chose-là. Tu ne vas rien faire. Alors, moi, j'ai un choix. Alors, soit je sors le zombie, d'accord, et je fais je vais vers le grillage. Oui, maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord? Ou je peux agir en citoyen du royaume de la lumière et je peux. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, je tourne le dos. Parce que lui, il est de ce côté-là, et moi, je suis de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va me faire si je dis non? Rien. Il ne peut pas. Parce qu'entre nous, il y a une frontière que Jésus a mise en place, et le péché ne peut plus m'atteindre. Sauf si je choisis de m'approcher du grillage pour dire, oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK? Mais ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre parfois. On croit que c'est une fatalité. Que, oh là là, le péché, ça fait partie de la vie. Non. On refuse ça. Parce que ce n'est pas vrai. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, il peut me tenter. Je peux agir en zombie. La femme que j'étais autrefois peut dire... Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais rien ne m'oblige de m'approcher du grillage. pour écouter ce que le péché a à dire. Rien. D'accord? Face à la tentation, nous avons toujours un choix. La possibilité de dire au péché, dégage. Okay? Ça devrait être notre instinct. Et si ce n'est pas encore ton instinct, on le répète jusqu'à ce que ça devienne notre instinct. OK? C'est non? Dégage. Mais parfois on dit, oui, mais, c'est assez fort quand même. Alors, si on peut passer ce verset-là. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. D'accord? Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Si j'ai bien compris ce qui est écrit là, ça veut dire que j'ai toujours le pouvoir de résister n'importe quelle tentation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que mon français est suffisamment bien d'avoir bien compris ce qui est écrit là? Oui? D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a rien que le diable peut mettre sur mon chemin en termes de péché. Il n'y a rien qu'il peut mettre sur mon chemin où je n'ai pas la force de dire non. Oui? Je vois quelqu'un. Oui, c'est intéressant ça. OK? Mais c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu, d'accord? Vous pouvez y résister. Vous pouvez y résister. Donc, ce n'est pas un combat. Attention aux paroles qu'on utilise. Nous n'avons pas un combat à mener contre le péché. Car pour le péché, on est mort. Et le péché ne peut pas être encore plus vaincu qu'il ne l'est déjà. D'accord? Oui? Il y a un ange qui dit oui. Okay? Le péché ne peut pas être encore plus vaincu qu'il ne l'est déjà. Parce que Jésus a fait ce qu'il fallait. OK? On doit simplement arrêter de relâcher le zombie. OK? C'est ça qu'il faut. Il est mort, qu'il reste bien enterré. Et en tant que résistant, il y a un outil indispensable. OK? Alors, just say no. Ça veut dire quoi? Ouais, juste dis non. Et c'est tellement simple qu'on a tendance à chercher quelque chose qui est plus compliqué. Ça ne peut pas être aussi facile que ça. Mais vous savez, c'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que, selon la parole de Dieu qu'on vient de lire, ça suffit. Mais il faut qu'on apprenne à dire non. Alors ça, en fait, ça faisait partie d'une publicité qu'ils utilisaient dans les années 90 aux États-Unis, en Angleterre, c'était contre la drogue. À l'époque, et on voyait les gros panneaux avec « Just say no ». Mais je trouve que c'est bien. « Just say no ». Voilà, pour tous ceux qui font le club d'anglais, voilà une phrase à retenir pour la semaine, d'accord? « Just say no ».« Just say no ». Alors, la dernière étape. Donc, on a deux étapes jusqu'à là. On a « Quelle vérité faut-il connaître ?»« Quelle attitude faut-il adopter ? » Troisième partie que Paul nous donne pour nous aider, c'est l'offrande. On a une offrande à faire. Donc, on va le lire d'abord. « Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel, pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Avec tes mains, soit tu peux frapper quelqu'un, soit tu peux donner un coup de main à quelqu'un pour l'aider à se relever. Okay? Le corps, c'est assez neutre. C'est le choix qu'on fait avec nos corps qui fait en sorte que ça soit un instrument au service du mal ou un instrument au service du bien. D'accord? Donc, on peut choisir. Avec ta langue, soit tu peux dire des choses qui blessent, qui sont méprisantes, qui dénigrent les autres, soit tu peux encourager, tu peux édifier, tu peux réconforter les gens. Alors, je ne vous dis rien de nouveau, vous avez entendu ça déjà. Mais c'est important qu'on puisse saisir ça pour nous. D'accord? C'est une façon de dire non. Alors, Jésus, il a dit lui-même, si ta main te fait tomber dans le péché, bah, coupe-la. Alors, il faut savoir, il ne prenait pas la mutilation. D'accord? Mais ce qu'il dit, c'est prends le péché au sérieux et s'il faut faire une manœuvre d'évitement, bah, fais-la. Si le non oral, si vous n'êtes pas sûr que ça va suffire, bah, vous faites une action concrète qui va soutenir votre non. D'accord? Je prends deux exemples très concrets. Très concrets. Les études varient dans les chiffres qu'ils donnent pour l'instant, mais c'est estimé qu'à peu près 50% des Français regardent la pornographie sur l'Internet. 50%. Okay? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais si toi, tu as un problème avec la pornographie sur Internet, ça commence avec le fait de dire non. Mais pour soutenir votre résistance, vous pouvez demander à quelqu'un de mettre un logiciel qui bloque les sites pornographiques. Tu demandes à un ami de mettre un mot de passe que tu ne connais pas. Tu fais de la résistance. D'accord? Ou tu jettes l'ordinateur. Ça peut être compliqué si tu as besoin d'un ordinateur pour travailler. Mais oui, c'est l'extrême de couple là. Mais il y a des choses que tu peux faire. C'est pas un problème de vaincre un zombie à plusieurs. D'accord? On est entouré pour faire cela. Il faut pas avoir honte de dire si tu as besoin d'aide. Je pense que tout le monde a des secrets plus ou moins compliqués dans leur passé. Mais tu n'es pas seul. D'accord? La résistance, c'est quelque chose qui se fait non pas seul. Ça commence avec une décision de ta part, mais vous êtes entouré pour pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, n'ayez vraiment pas peur de dire si tu as un problème dans un domaine ou autre où tu as besoin de l'aide pour vaincre ce zombie en particulier. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, quelque chose un peu plus banal, on peut dire. Si tu as du mal à ouvrir la bouche sans dire des choses qui sont un peu cassantes, un peu blessantes, il y a une devise que tu peux adopter pendant un certain temps qui veut dire « mieux vaut se taire que de dire des méchancetés ». Alors, ça veut dire que peut-être que tu vas parler un peu moins pendant un certain temps. Peut-être. Ça veut dire peut-être que tu vas être un peu moins divertissant dans le bureau ou dans les soirées parce que voilà, ce que tu dis, ça fait rigoler les gens ou autre. Mais faire de la résistance, c'est dire non. Donc, si tu as du mal pour l'instant à sortir ce qui est bien, ce qui édifie les autres, bah, dis un peu moins. Parle un peu moins pour entraîner ta pensée à mettre des choses plus édifiantes dans ta bouche. D'accord? C'est beaucoup plus banal, mais ça peut être aussi destructeur que quelque chose comme la pornographie. Mais c'est peut-être quelque chose un peu plus répandu parmi nous. D'accord? Donc, on prend l'habitude de considérer ce qu'on fait, ce qu'on dit. Si vous saviez, et là je parle de l'expérience personnelle, si vous saviez combien de phrases j'ai terminées en mi-phrase, parce que je me suis rendu compte que ma façon de terminer la phrase n'était pas très chouette. Et ça m'est arrivé, il y avait une période de ma vie où j'ai dû faire très très attention à ce que je disais. Et donc, je parlais avec quelqu'un et je comptais, « Ah oui, ben, une telle, blah. » Et j'arrêtais. Et la personne avec qui je parlais dit, « Ouais, alors ?» Non, non, c'est rien. » Et j'arrêtais. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début, mais il fallait que je maîtrise ce que je disais. Et je devais apprendre à dire non à ce qui allait sortir. Il y avait d'autres, parfois je faisais un peu le poisson rouge. Tu sais, quand tu es sur le point de parler, tu fais, et puis tu te rends compte, ce que tu vas dire, c'est pas génial. Et on ferme la bouche, donc. Mais vaut mieux ça, vaut mieux ça que sortir quelque chose qui ne va pas édifier les gens, qui va détruire quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Il faut qu'on fasse attention. L'autre chose, c'est si vous saviez, moi j'ai passé par une période de ma vie où j'ai galéré avec mes pensées. J'avais des pensées qui étaient très malsaines, qui prenaient beaucoup de place dans ma tête. Et pendant, c'était pendant une période de quelques années. Et j'ai dû... oh Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas bien, il faut que je m'en sorte, il faut que je lutte. Et finalement, Dieu m'a montré ce passage-là, cette partie de Romain. Il a dit, mais tu dis non. C'est aussi simple que ça. Tu dis non, tu refuses. Et tu vas voir, parce qu'en ce moment, tu accordes de la puissance à quelque chose qui n'a pas de la puissance. Et donc, tu dis non. Et moi, je dis, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Et finalement, je dis, bon, d'accord, on essaie. Je reçois cette parole, je suis impactée par cette parole. Voilà, l'inondation de pensées qui ne sont pas du tout bien arrive. Et je suis seule. Je dis, non, à haute voix. Ça part. Pendant les 2 semaines qui suivaient cette période-là, 3 ou 4 fois. Voilà. Parce que le péché ne va jamais lâcher la première fois. Ou rarement, en tout cas. Il va encore essayer de... Mais la première... Quand tu as dit non, et quelque chose se passe de bien, ça construit ta foi. Et donc, voilà, 2e fois. Alors, je vois sur l'horizon les pensées qui arrivent. Et dès que je la vois, non, je refuse. Et en ce que disait Paul là, voilà, on fait autre chose. On offre notre... Bon, dans mon cas, c'était mes pensées. Voilà, j'ai offert ça à Dieu. Et je vais penser à quelque chose qui est autre que le péché qui est là. Et qu'est-ce qui se passe? Ça part. Comme ça. Encore 2 fois dans la semaine. Et depuis, plus rien. Plus rien. Et je suis complètement libre depuis... quelques années maintenant, de cette chose, mais qui pendant 3 ans, je crois, qu'il n'y avait pas de sortie. Et finalement, tout ce qu'il fallait, c'est que je reçoive cette vérité pour moi, que je peux dire non. Je peux dire non, et qu'en disant non, ça casse la puissance de ce péché. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire, oh, si vous péchez, c'est très mauvais, c'est mal. Je suis là pour vous encourager. Que nous avons tous le pouvoir, la puissance de dire non, je refuse. Just say no. Okay? Just say no. Parce que ça va, je vous assure que ça va changer votre vie. S'il y a des domaines de votre vie où vous luttez pour surmonter des problèmes, pour surmonter quelque chose qui vient encore et encore et encore, des soucis, des façons de vous comporter, et vous savez que ce n'est pas bien. OK? Dis non, d'accord? Et je vous promets qu'il y aura un effet. Donc, juste pour terminer, les 4 étapes. Connais la vérité. Tu es mort. Tu es mort pour le péché. 2e chose, prends ça pour toi. Ce n'est pas simplement vrai pour les autres, c'est vrai pour moi. 3e chose, fais de la résistance. Fais de la résistance. On n'a pas à combattre quelque chose qui est vaincu. Il faut simplement qu'on résiste. On dit non. Et puis, sois une arme au service du bien. Meilleure façon de résister, c'est faire autre chose qui glorifie Dieu. Ou penser à autre chose qui glorifie Dieu. Ou dire autre chose qui glorifie Dieu. C'est la meilleure façon de faire de la résistance contre le péché. Et donc, j'aimerais inviter à vous lever. On va prier juste pour clôturer. Et ce que j'aimerais, c'est que si aujourd'hui pour toi, tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr que c'est vrai pour toi, cette vérité, tu n'as pas encore pris cette vérité pour toi, que le péché n'a aucune puissance dans ta vie. Si ça c'est toi, moi je vais prier et j'aimerais que vous preniez cette prière pour vous et que vous vous décidiez de faire de la résistance. D'accord? On va être les résistants pour Dieu. Seigneur, Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur que ta parole coupe, que ça perce. Que ça peut transpercer n'importe quel mur. Et Seigneur, maintenant, je te demande de transpercer nos cœurs avec cette vérité. Cette vérité qu'on est mort pour le péché. Que tu as une maturité spirituelle pour chacun d'entre nous. Tu veux qu'on avance. Tu veux qu'on grandisse en toi. Et tu veux qu'on apprenne à résister. À résister au péché. Donc, Seigneur, maintenant, nous prenons cette vérité pour nous et pour nos vies. Et cette semaine et dans les semaines à suivre, Seigneur, nous disons merci pour le pouvoir que tu nous as donné de dire non au péché. Et je prie pour chaque personne ici aujourd'hui que dans chaque situation dans laquelle ils vont être confrontés à un choix, où le péché tente, le péché dit « fais ci, fais ce, fais cela », que pour chaque personne ici, on se rappelle du fait qu'on est mort pour le péché et qu'on peut dire non et que le péché ne peut plus rien dans nos vies. Et donc, je proclame cette vérité sur nous, sur ton peuple, parce que nous croyons que c'est ta vérité qui nous libère. Et nous recevons cette liberté au nom de Jésus. Amen. Amen.